Le plus important, c'est de tenir ferme et de réaliser aussi que nos frères et sœurs, surtout en Afrique, subissent la persécution. Et nous avons ce privilège de pouvoir nous réunir librement. Nos frères et sœurs en Algérie, Tunisie, Maroc, ils sont obligés de se cacher dans les maisons, dans les appartements, de louer Dieu dans la discrétion et d'être toujours prêt à changer de configuration et de situation quand on vient frapper à la porte parce que la milice surveille. Et je pense qu'on va arriver dans des temps difficiles également pour nous.
J'ai vu ce matin, comme voir en Iran, tous les jours, il y a deux églises de maison qui s'ouvrent.
Qui s'ouvre. Dans les
Exactement.
premiers temps, donc les premiers disciples, les apôtres, et c'est vrai que c'est par la persécution que l'évangile s'est propagé et que la semence de la parole de vie a porté du fruit, porte du fruit. Alors c'est un paradoxe. Et c'est vrai, quand on voit toutes ces persécutions, tous ces frères et sœurs qui tiennent bon dans ces épreuves. Donc ça nous amène justement, puis ma pensée c'est celle-ci, ça nous amène justement à cette vitalité spirituelle pour continuer à avancer, pour continuer à marcher, pour continuer à persévérer par la foi en Jésus-Christ. Et comme Fred le disait, tout n'est que grâce. Nous pensons quelquefois produire des choses, mais en fin de compte, on ne produit rien concernant Dieu, concernant les choses spirituelles. En fin de compte, nous avons et nous possédons tout de Dieu par Jésus-Christ. Alors, dans la continuité de la Sainte Cène, il nous est dit dans Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors on voit là les deux situations, effectivement, le naturel et le spirituel. L'homme ne vivra pas de pain seulement, de cette nourriture naturelle, physique, que nous avons besoin, parce que Jésus aurait pu dire, formuler ça différemment. Jésus aurait pu dire, ben, l'homme vivra uniquement de la parole de Dieu. Non. L'homme ne vivra pas seulement. Donc la chose, le fait de se nourrir physiquement est très important, mais il y a encore plus, c'est-à-dire la nourriture spirituelle, la nourriture qui sort justement de la bouche de Dieu, qui sort de la Bible, parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, quand on entend toutes ces informations, ce sont des nouvelles qui, dans certains cas, nous attristent, d'autres nous réjouissent, mais il y a moins de nouvelles réjouissantes que les autres qui nous attristent, n'est-ce pas? Alors, il y a aussi ce découragement, cette fatigue, cette lassitude spirituelle qui peut s'installer, et cette lassitude spirituelle s'apparente aussi. On peut l'apparenter, elle s'apparente justement à cette vie physique, à cette nourriture naturelle. Parce que quand il y a la fatigue physique qui commence à peser, il est bon d'y remédier rapidement, n'est-ce pas? D'en chercher la cause. Que se passe-t-il? Est-ce que je suis grippé, enrhumé? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je n'ai plus l'énergie physique pour continuer à avancer, à œuvrer? Dans la généralité, on constate quelquefois que nous faisons de trop. Ça, c'est un petit peu la généralité. Nous faisons trop de choses. Une surcharge de travail qu'il faut peut-être gérer différemment. Une situation relationnelle qui est pesante, qu'il faudrait solutionner. Une difficulté financière. Et quelquefois, c'est tout simplement du repos qui s'impose. Là, je parle maintenant sur le plan naturel, physique. Alors, on peut constater quand la fatigue physique s'installe, Il y a une perte de motivation. Il y a le stress qui est à fleur de peau. On ne supporte plus grand-chose. On supporte presque même plus l'humour, parce qu'on le prend toujours, on va le prendre à un moment donné, un brin d'humour, on va peut-être même le prendre tragiquement, parce qu'on ne comprend plus, justement, quelquefois, la plaisanterie, parce que le stress, il est vraiment là, à fleur de peau. On est prêt, peut-être, quelquefois même à exploser, à se fâcher, peut-être à ne plus contrôler les choses. Et vous voyez très bien aujourd'hui, hein. Il n'y a qu'à voir sur la route, vous prenez la voiture, vous avez tout compris. J'en ai juste un là en venant, qui voulait me dépasser là, dans la zone 30. Et il hésitait. Et en fin de compte, il est resté derrière moi. En regardant le rétro, je me suis rendu compte qu'il tournait juste dans une rue ou dans une cour. Donc, je me suis dit, maman, il cherchait à me dépasser juste pour 20 mètres. Heureusement qu'il ne l'a pas fait. Parce qu'on peut être pressé. Quand j'avais une situation urgente, moi j'ai mon collègue qui est pompier professionnel. Alors on ne sait pas que c'est un pompier professionnel qui est au volant du véhicule quand il le dépasse, avec sa voiture personnelle. Mais alors oui, ils peuvent foncer. Donc on peut quelquefois comprendre qu'il y a des gens qui prennent des risques parce qu'ils vont secourir quelqu'un d'autre. Mais c'est pas courant. Hein. Il y a plus de gens stressés, pressé, agressif, et toutes les incivilités qui peuvent suivre et en déboucher. Alors, frères et sœurs, j'ai juste pour dire que si notre vitalité physique est à fleur de peau où elle se dessèche, on peut constater que notre vitalité spirituelle peut être touchée. On n'a plus envie, on n'a plus le temps de lire la parole, de prier peut-être, ou de faire, ou de se laisser guider par de la méditation. Alors, il nous est dit dans Proverbes, chapitre 18, verset 4, « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera ?» Donc, on voit très bien là que tant que notre vitalité intérieure, spiritualité, donc qui touche à notre morale, est en bonne tenue, quand nous sommes malades, nous pouvons relever notre corps qui est touché par la maladie. Moi, je parle de maladie courante, hein. Je parle pas de maladie chronique ou autre. J'ai ma tante qui est touchée par un cancer, donc un myélome. Donc on rentre là également dans une autre dimension, mais le principe reste toujours pareil. C'est-à-dire si dans notre four intérieur, dans notre spiritualité, nous manquons de vitalité, nous aurons beaucoup de mal à traverser des épreuves et des situations difficiles. Ça va de soi, n'est-ce pas? Mais combien de fois nous sommes quelquefois dans ces situations-là? Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est que dans 1 Thessalonique, au chapitre 3, verset 2, je ne l'ai pas affiché, c'est Paul qui parle, parce que Paul dira à un moment donné que le croyant ne soit pas ébranlé par ses épreuves. Donc nous savons que nous devons traverser des situations et des épreuves. Nous savons que nous allons être éprouvés. Le juste affranchi, le chrétien né de nouveau, va automatiquement, et Jésus le dira aussi, donc traverser des épreuves et des difficultés. Il nous a dit, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Alors là, ça m'a interpellé, je me suis dit, mince. Mais c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, nous sommes même destinés à cela, destinés à être éprouvés, destinés à traverser des épreuves. L'apôtre Paul en avait vraiment conscience et c'est vraiment fort. Être destiné à traverser des épreuves. Alors, en réfléchissant un petit peu à ce verset, ça m'amène à Jérémie. Quand Jérémie, justement, l'esprit l'emmène chez le potier, que se passe-t-il là quand le potier prend une motte d'argile entre ses mains? Mais cette motte d'argile, elle est écrasée. Elle est pressée pour être justement façonnée. Si cette argile ne passe pas justement cette étape de pression, où là, on pourrait presque dire maltraitée, pour devenir après un vase d'honneur. Ce sont des choses qui nous dépassent. Alors, on voit très bien l'image du potier. Mais quand on transpose cette image du potier à notre vie personnelle, on peut dire, oui, mais Seigneur, là, est-ce que cette épreuve va devenir encore plus forte? Est-ce que je vais avoir ces capacités, justement, à répondre à cette épreuve ou à traverser cette épreuve? Alors, les épreuves, frères et sœurs, nous en avons tous. Et je dirais même, pas seulement les chrétiens, mais dans le monde, les incroyants. J'ai visité l'autre jour, enfin je visite un peu régulièrement dans les hôpitaux. C'est dur. Quand vous passez les couloirs, vous avez des portes des chambres qui sont ouvertes, quand vous avez des personnes qui sont là, couchées, qui ne peuvent plus bouger, qui attendent que ça se passe ou qui attendent que ça se termine. Je dis, Seigneur, quand même, qu'est-ce que c'est dur? Qu'est-ce que c'est dur? Alors, on subit tous des épreuves. Je me suis dit, Seigneur, le chrétien qui est éprouvé dans son lit d'hôpital, il a de l'espérance. Mais celui qui est non-croyant, qui passe la même épreuve, je sais pas. Ça m'interpelle. Ça me fait plus que m'attrister encore, parce que c'est terrible. De ne plus rien avoir au bout, d'avoir plus d'espérance, sachant que la vie physique va s'éteindre et que l'âme, elle, poursuivra sa route dans l'éternité. Mais dans quelle éternité? Éternité de lumière ou éternité de ténèbres? Eh oui, nous passons tous des situations difficiles. Mais vous avez constaté, comme moi, on ne réagit pas tous de la même manière, n'est-ce pas? Et je pense souvent à cette règle médicale qu'ils ont souvent pour évaluer un petit peu la douleur. Vous avez douleur de combien? De 1 à 10? Vous vous situez où? Alors on dit quelquefois 5, 6, 7, 8, mais en fin de compte, le 5 ou 6, ça peut être peut-être moins ou plus fort que l'autre qui subit peut-être la même chose. Enfin, c'est aléatoire, toutes ces choses-là. Mais on peut quand même néanmoins constater qu'il y en a qui traversent des épreuves. Et comme je disais au début, quand nous avons nos frères et sœurs qui sont persécutés, quand vous avez des familles qui sont décimées, quand vous couchez le soir et vous ne savez pas si vous allez vous réveiller, vous, vos femmes et vos enfants, je crois que là, il y a des choses qui changent, n'est-ce pas? Et quand on les entend, c'est encore eux, dans leur situation, qui nous encouragent. Incroyable! Vous avez des femmes, des familles qui ont perdu leurs enfants, mais c'est incroyable! Je relatais une histoire aussi qui m'est restée un petit peu en mémoire. Je ne sais plus dans quel état d'Afrique c'était, mais en fin de compte, ils ont fait un grand feu, ces terroristes, pour décimer tout un village. Et c'était deux enfants qui étaient là. Il y avait le Benjamin, le fils aîné. Et quand ils ont vu ce qu'ils ont fait au fils aîné, ils lui ont coupé les bras avant de le jeter au feu. C'est-à-dire, il y a déjà une souffrance au préalable en lui coupant les bras. Et ce jeune Benjamin qui vient derrière, vous n'avez pas besoin de me couper les bras. Il s'est jeté tout seul dans le feu. Quand il a vu son frère. Mais les parents survivants dans ces atrocités, ils ont encore la foi. Tout le monde ne réagit pas de la même manière. Et si ces hommes et ces femmes, ces frères et sœurs peuvent tenir, c'est parce que justement, comme Fred l'a dit, comme nous l'avons chanté, parce que c'est Dieu qui est fort en nous. C'est Dieu qui est fort en nous. Philippiens 4:13, je supplie tout par Christ qui me fortifie. Rien ne vient de moi. Si je peux traverser des épreuves, aussi terribles qu'elles soient, c'est par la puissance et l'action de l'Esprit. Ô Seigneur, que tu puisses vraiment nous aider. Car chaque épreuve que nous traversons est une difficulté à franchir. Alors, pour maintenir notre corps dans sa vitalité physique, il faut lui apporter les nutriments nécessaires, une alimentation variée si on peut, l'hydrater pour avoir de l'énergie nécessaire pour accomplir les tâches quotidiennes. Il en va de même, frères et sœurs, sur le plan spirituel. Si notre esprit n'est plus connecté, n'est plus alimenté par la parole de Dieu, n'est plus alimenté par la prière, par la communion fraternelle. La communion fraternelle. Yves parle de baptême et d'agape, c'est extraordinaire. On ne peut pas toujours être là, c'est sûr. Mais cette communion fraternelle, le dimanche matin, le présentiel. Alors aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on essaye de composer tout. On essaye d'imiter tout. Même les prédications, même les cultes. Je me souviens, dans l'assemblée de Pulversheim, en introduction, il y a deux jeunes qui ont élaboré un texte, une prédication en 2 minutes, je crois, quelque chose comme ça, en mettant juste 2 ou 3 mots-clés. Et moi, ce qui m'a interpellé, je dis, alors, ils n'ont pas tout de suite dit au début, hein. Ils dit, voilà, on vous a prévu, on vous fait une petite introduction des textes bibliques, qu'on a composé vite fait, hein. Voilà, ok, d'accord. Et, je disais presque amen à ce qu'ils ont dit, parce que ça m'a ramené à une prédication ultérieure que j'avais faite sur la sortie du peuple d'Égypte quand on est arrivé justement au bord de la mer Rouge. On avait tout ce tumulte avec justement les Hébreux, ces perturbations, et en pensant à tous ces animaux qui étaient là acculés entre la mer Rouge et les Égyptiens, et ils sortaient des textes. Oui, je dis amen. Et alors, quand ils avaient fini, au bout de 2 minutes, hein, 3 minutes, ils me disent voilà, notre frère dit amen, mais c'est l'intelligence artificielle qui a composé justement cette introduction. Ouais. Donc, alors on dit que l'intelligence artificielle est peu composée, mais il n'y a pas la substance de l'esprit. Amen. D'où l'importance d'avoir, justement, tant qu'il est possible, de pouvoir nous réunir et d'avoir ce présentiel. Parce que, comme cela a été dit, nous sommes une habitation de l'esprit de Dieu. Et chaque personne, chaque frère et sœur a un potentiel spirituel qui met en commun pour être justement en exhortation, pour édifier. Moi, je suis réjoui rien que du fait que je vois des frères et sœurs qui sont là depuis des années, fidèles, des piliers. Quand on rentre dans une assemblée, on est réjoui parce qu'on je vois un tel, ah, oui. On est déjà réjoui sans se parler. On a besoin des uns des autres. Le fait de pas venir ou le fait de manquer, bon, pour X raisons, ça, y a pas de souci. Mais mettons tout le potentiel pour nous maintenir à venir dans une réunion ou dans un culte pour partager justement la communion fraternelle. Et si nous ne veillons pas, frères et sœurs, à renouveler ces ressources spirituelles, c'est comme les aliments. On peut s'en passer un temps, mais à un moment donné, ça n'ira plus. Alors, ne pas renouveler nos ressources spirituelles, c'est exposer notre âme à un assèchement spirituel. Alors là, frères et sœurs, nous commençons à rentrer dans un assèchement spirituel. Alors au début, ça va. Et puis je pense à cette anecdote que vous avez certainement dû lire aussi, je ne sais plus si c'était sur un feuillet de calendrier ou sur la parole du jour, je ne sais plus. Parole du jour, j'aime bien. Ça. Je dis tout de suite 3-4 jours en même temps parce que un jour, ça ne me suffit pas. Alors du coup, quelquefois, je sais plus où j'ai lu cet exemple ou cette anecdote. Mais j'en ai lu une, justement, dans le désert. C'était une personne, pour faire, ouais, de mémoire, c'était une personne qui était égarée dans le désert, parce que nous allons parler justement de Hagar également après. Et, bah oui, à un moment donné, l'eau manquait. Elle commençait à rentrer dans cet assèchement, physique, pour elle. Et cette personne est arrivée à une fontaine. Et vous savez, c'était les anciennes fontaines encore, les plus anciennes connaissent. C'est ces fontaines qu'il y avait justement dans les fonds de cour ou dans les fermes encore. Il fallait pomper. Hein? Et le problème était qu'il fallait pomper. Avant de pomper, il fallait mettre de l'eau. Alors, il y avait cette pompe qui était là, cette pompe manuelle, avec un vase d'eau. Je ne sais pas quelle était la quantité qu'il y avait dedans, mais il y avait un vase d'eau avec un petit écriteau. Soit vous pouvez boire cette eau de suite, ou la mettre dans la pompe et avoir de l'eau en abondance. Venir de situations où vraiment... Alors, il y a plein de choses qui peuvent venir interférer. Est-ce que si je prends cette cruche d'eau, voyant la vétusté de cette pompe, ayant besoin justement de cette eau, est-ce que je tente le coup pour prendre cette eau qui pourrait et qui m'est utile pour la mettre dans cette pompe et je ne sais pas ce qu'elle va générer? Eh oui. Mais le truc était que la personne qui a laissé cette cruche d'eau, avant, précédemment, elle avait pu pomper de l'eau. Donc, voyez un petit peu cette situation. Et cette personne a décidé de prendre cette eau, la verser dans la pompe, parce que comme c'est des pompes anciennes, c'est l'étanchéité du piston, donc de l'eau, quand on verse de l'eau, c'est l'étanchéité de l'eau qui permet justement... c'est l'eau qui permet l'étanchéité pour pouvoir aspirer l'eau plus profonde. Voilà. Et ça fonctionne. Et une fois que c'est lancé, c'est bon. Il y a de l'eau en abondance. Oui. Voilà, Yvonne. Hein, ben voilà. Ouais, il te confirme. J'ai aussi déjà vu fonctionner cette chose. Et quand on m'avait dit qu'il faut d'abord verser de l'eau, je n'avais pas compris non plus. Hein. Tu fais maintenant. Moi, je veux pas gaspiller l'eau. Je veux avoir de l'eau. Il dit non, mais pour avoir de l'eau, il faut d'abord en mettre. Alors, j'avais une fois aussi vu également une vieille pompe comme ça. Et oui, frères et sœurs, quand nous rentrons dans un assèchement spirituel, nous aurons les influences et les aspirations charnelles qui seront tellement fortes, les divertissements de ce monde qui viendront combler cette négligence si nous négligeons notre vie spirituelle. Ben, on crée automatiquement à un moment donné un vide que le monde va combler. Et comme nous sommes vraiment dans un, si nous tombons dans cet assèchement spirituel, ben, les pressions physiques, naturelles seront tellement fortes qu'on va commencer à courir à droite, à gauche. Parce que on va ressentir ce besoin immédiat, nécessaire, qu'il nous faut. Et en fin de compte, ça va nous dévier. Alors, si les ressources spirituelles s'épuisent, c'est aussi voir les enfants de Dieu marcher la tête basse, marcher comme des vaincus. Nous avons pris la Sainte Cène. Christ a tout accompli à la croix. C'est justement pour que nous puissions justement être des vainqueurs. Nous sommes victorieux par la victoire de Christ. Et quand nous rentrons dans un assèchement spirituel, nous marchons comme des enfants vaincus. Nous perdons un petit peu ou notre foi, la notion de foi. Et c'est la lassitude, le découragement, la fatigue et la routine qui commencent à prendre les devants. Vous savez, c'est comme une boule de neige, quand vous voulez faire un bonhomme de neige. Alors, la petite boule, au début, ça va. À la limite, on peut la pousser avec le pied. Hein. Mais, fur et à mesure qu'on commence à la rouler, ça commence à prendre, justement, des plus grandes dimensions. Et à un moment donné, on se rend compte qu'on n'arrive plus à la pousser, cette boule. À mes frères et sœurs, c'est un petit peu ce processus, cette image qu'on peut donner. Si on rentre dans un assèchement spirituel, on n'arrivera plus à pousser cette grosse boule qui est devant nous. On ne verra pas plus loin. On sera complètement absorbé par ces situations. Et le Saint-Esprit nous encourage ce matin, justement, à venir boire aux sources de la vie. Et je le note toujours, et c'est Ésaïe chapitre 12 au verset 3. Venez avec allégresse boire aux sources du salut. C'est aussi un verset que je m'approprie tous les matins. Ou presque tous les matins. De venir, Seigneur, oui, je viens, Seigneur, boire avec allégresse aux sources du salut. Et comme le disait Yves aussi à un moment donné, en introduction, nous proclamons des choses. Et je disais à ma tante, qui est touchée par ce cancer, elle me disait à un moment donné, oui, mais Dieu sait déjà ce que je vais lui demander ou ce que je veux prier. Donc j'ai des prières très 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 discrètes que je ne formule pas. Je fais oui, c'est bien, il n'y a pas de problème. Dans le recueillement, il y a des prières silencieuses. Et je dis que Dieu lit même dans les pensées, dans les larmes. Il n'y a pas autre souci. Dieu lit dans les soupirs. Donc il n'y a même pas de parole. Nous sommes dans les soupirs et Dieu les connaît. C'est extraordinaire. Mais ô combien il est important, frères et sœurs, de proclamer également au travers de notre bouche des mots, des phrases qui glorifient Dieu, qui nous encouragent. Citer des versets bibliques, pourquoi ? Moi, j'expérimente, c'est par expérience que je peux le dire, c'est que quand nous formulons quelque chose par une voix audible, quand on prononce des choses, comme Yves le disait, on le prononce déjà devant toutes les autorités, qu'elles soient humaines ou spirituelles. Ça, c'est déjà d'une. On est entendu et on se fait entendre. Et on parle justement, tout dépend du sujet de la prière, on peut se parler à nous-mêmes, prendre autorité sur notre corps, sur plein de choses. Et il est bon de le formuler. Pourquoi ? Parce que quand on formule, il y a des vibrations qui se font. Et ces vibrations impliquent tout notre corps. C'est-à-dire, c'est du fond du cœur que notre bouche parle. Et c'est au travers de notre corps que ça s'exprime. Et c'est ça qui est extraordinaire. Nous impliquons esprit, âme et corps dans ce que nous formulons. Alors oui, il y a des prières secrètes. Et je disais à ma tante, oui, tu sais bien que tes enfants t'aiment, n'est-ce pas ? Oui, oui, oui. Mais s'ils ne te le disent jamais, ça peut peut-être te convenir. Mais si de temps en temps ton enfant te dit « Maman, je t'aime », ça fait une touche supplémentaire, n'est-ce pas ? C'est, ah. Oui, je sais que mon enfant m'aime. Ou alors inversement, je sais que mes parents m'aiment. Mais quelquefois, quand on peut dire à un enfant, et que je me souviens, hein, parce que nous, justement, en tant qu'Alsaciens de pure souche, nous formulions pas tellement des choses avec les mots. On disait que les actes suffisent. Bon, voilà, effectivement, bon. Mais ô combien, avant que mon père décède, des années avant, je me forçais quelquefois à prendre autorité pour que justement, ces paroles, je dis, Papa, tu sais que je t'aime. Papa, je t'aime. Voilà. Alors, c'est extraordinaire parce que rien que ces mots qu'on n'avait pas l'habitude de formuler, qu'on avait au fond de notre cœur, quand elles sortaient de notre bouche, ça touchait différemment, mon père. Et on était presque, rien que ce mot nous mettait en larmes du fait qu'on l'a exprimé. Et si je ne l'avais pas exprimé à plusieurs reprises, mais pas systématiquement non plus, hein, je disais, j'avais une fois un collègue de travail, il disait je t'aime à tout le monde, en fin de compte, il le disait je ne sais plus combien de fois dans la journée, dans la semaine et moi, en fin de compte, ça passait au-dessus, quoi. Hein? Mais avoir ce je t'aime sincère, quelquefois, ou prendre en dire à un enfant, voilà, je t'aime, ah oui, c'est fort. Alors oui, on peut garder les choses, on sait, on ressent. Mais quelquefois, il faut les exprimer, frères et sœurs. Et le fait de les exprimer, ça ravive quelque chose. Alors, ce matin, je ne sais pas quelle est ta situation, si tu te diriges vers un assèchement spirituel, si ta vitalité spirituelle s'évapore, si tu as l'impression d'être dans un désert spirituel, si tu marches dans ton cœur comme un vaincu, Dieu te dit ce matin, reviens. Reviens te désaltérer aux sources du salut. Alors, j'ai le psaume de David, où il nous a dit, lorsqu'il était dans le désert de Juda, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi et mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Alors, comme je l'ai noté, non, pas plus. Alors, tu te dis peut-être, je n'ai même plus la force. J'ai perdu la motivation. Je suis égaré dans ce désert spirituel de ce monde. Alors, on peut quand même aussi lire l'histoire d'Agar, juste quelques versets. Parce que vous pouvez lire, et vous l'avez de toute façon certainement déjà lu, chez vous, il y a plusieurs reprises, je pense, on connaît toute cette histoire d'Agar, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vais juste lire le verset 14, on trouve ça dans Genèse 21, au chapitre 14, et on va aller jusqu'au verset 19. Donc, au verset 14 de Genèse 21, il nous a dit, elle s'en alla du fait qu'Abraham lui avait donné une outre d'eau. Elle s'en alla justement avec Ismaël et elle s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous des arbrisseaux et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Car elle disait, je ne vois pas mourir mon enfant, que je ne vois pas mourir mon enfant. Et elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Voici une situation aussi de sécheresse, non seulement physique, mais également spirituelle. Donc, à un moment donné, parce qu'elle éleva la voix et pleura. Vous voyez, dans cette situation, elle n'est pas uniquement restée dans son four intérieur et elle pourrait se dire, mais Dieu me voit. Je sais, mais quand même, non seulement elle a pleuré, mais elle a élevé la voix. Alors oui, Dieu nous voit. Oui, Dieu nous entend. Dieu entend nos soupirs, Dieu entend notre prière secrète. Mais faut-il pas, quelquefois, élever la voix? Dire, Seigneur, j'ai vraiment besoin de ta grâce. Et quand on élève la voix, comme cela a été également dit, les promesses de Dieu sont oui. Et amen. Donc, ça appuie à nouveau en confessant les promesses de Dieu. Et au verset 19, il nous a dit, « Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Et elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. » Alors, c'est une histoire qui peut aussi nous amener à tous ces parents isolés qui s'occupent justement de leur enfant. Agar était un parent isolé. Et juste pour refermer cette parenthèse, on peut voir là, justement, un cas de figure de parents isolés qui sont souvent dans les complications, dans les difficultés, dans les épreuves à subvenir justement à l'enfant ou aux enfants qui sont à leur charge. Je referme la parenthèse. Alors, Dieu entend dans mon cœur les gémissements du désespoir, comme pour Agar, mais Dieu veut t'ouvrir ce matin. Sur le chemin sur lequel tu te trouves, peut ouvrir les yeux sur la bénédiction qu'il a pour toi. Il désire justement te conduire vers la source de la vie, vers cette source d'eau vive. Et Jésus est cette source d'eau vive. Il est dit dans Ésaïe, chapitre 43, verset 19, « Je mettrai un chemin dans le désert. Si nous sommes désorientés, si nous n'avons pas de solution à notre difficulté, à notre épreuve. Oui, Seigneur, il est dit dans ta parole que tu peux mettre des chemins dans le désert. Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je puisse discerner, pour que je puisse marcher sur le chemin que tu ouvres pour moi et des fleuves d'eau vive dans une terre aride. Oui, Seigneur, tu me donneras également la force de marcher sur ce chemin nouveau que tu as peut-être prévu pour moi, ou ce chemin ancien que je dois traverser, mais avec ta force. Alors tu peux faire cette prière tienne, cette prière de David, donc au psaume 31, 9. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Vous voyez, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, on a chaque fois, justement, ce contexte de esprit, âme, corps. Seigneur, j'ai besoin d'être renouvelé. Seigneur, dans mon corps, j'ai le visage, l'âme usée par le chagrin, le corps usé par le chagrin, et je suis dans la détresse. Alors saisis par la foi ces promesses de Dieu, elles deviendront à nouveau un rafraîchissement pour ton âme, et ils prendront vie en toi. Et dans Jean chapitre 4, 14, il s'est également dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, c'était la Samaritaine qui disait cela, je lui donnerai de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Et pour Agar, à un moment donné, Dieu lui dira, lève-toi. Au verset 18. Du chapitre 21 de Genèse, il dira à un moment donné, lève-toi. Oui, Dieu a entendu. Dieu a pourvu pour Agar. Mais à un moment donné, on peut aussi répondre à cette injonction, à cet ordre de Jésus, lève-toi. C'est-à-dire que c'est une attitude de foi. Seigneur, oui, tu es celui qui me nourrit, qui vient justement me soutenir. Tu es celui, Seigneur, tu es ma force, et il faut que je le croie. Et cet acte de foi, de se lever et de faire un pas devant l'autre, ça confirme justement cette foi que j'ai en la parole de Dieu. Alors, oui, je veux à nouveau espérer en tes promesses. Alléluia. Et il nous est dit, au psaume 42, verset 1 aussi également, comme une biche qui soupire après les courants d'eau. J'aime bien ce verset. C'est extraordinaire. Comme une biche qui soupire après les courants d'eau. Mon âme soupire après toi, ô Dieu. Alors même quand nous sommes dans une santé spirituelle stable, ou peut-être nous sommes peut-être à un sommet spirituel, il n'y a pas de souci. Mais je constate que il faut chaque fois ce renouvellement. L'eau d'aujourd'hui ne suffit pas pour demain. Et ô combien même si nous sommes sur un sommet spirituel, à un moment donné, il faut redescendre. Il faut redescendre de ce rayonnement peut-être de la gloire de Dieu dans notre cœur. Eh oui, Seigneur, oui, comme une biche qui soupire auprès des courants d'eau. Alors, nous pouvons marcher, et tu peux marcher ce matin, à nouveau en vainqueur, en levant la tête. Laisse le souffle de Dieu te régénérer. Parce que, si, c'est extraordinaire, si nous n'avons pas la force, c'est quand même Dieu qui vient vers nous. Et ce matin, c'est Dieu qui vient vers toi. Dieu connaît ta situation. Et il a dit que le berger est allé chercher cette seule brebis égarée. Il est allé vers cette brebis. Pourquoi? Parce que la brebis était égarée et elle ne pouvait plus revenir. Donc c'est Dieu qui était allé chercher cette brebis. Dieu nous connaît. Dieu s'avance vers nous. C'est ça qui est glorieux. Être entendu de Dieu. Oui, j'ai entendu ton soupir, ta détresse, et j'ai entendu tes pleurs peut-être, et ta voix. Alors, il nous a également dit, recommande ton sort à l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel, mets-lui ta en lui ta confiance et il agira. Alors j'aime bien là, recommande ton sort à l'Éternel et au psaume 55, oui c'est pareil, remets encore une fois ton sort à l'Éternel, mais il y a deux nuances. Mets en lui ta confiance et il agira, quand tu remets ton sort à l'Éternel, et dans le psaume 55 verset 22, il nous a dit, et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. Et deux autres versets, 56, 3, quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Et ce verset connu, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Et je vous invite également à compter les bienfaits de Dieu, et tu verras combien le nombre en est grand. Alors, regardez vite fait dans le rétroviseur quand on conduit, c'est bien, il faut. Mais le champ de vision reste quand même entre le grand pare-brise, voilà, devant. Mais quand on jette un petit coup d'œil dans le rétro, on peut compter les bienfaits de Dieu. Ô Seigneur, combien de fois avez-vous expérimenté justement le soutien de Dieu, cette grâce de Dieu? Et quelquefois, on aurait pu se dire, oui, mais c'est parce que moi j'ai bien réfléchi, c'est parce que j'ai bien pensé, parce que j'ai bien réagi. Qui vous a donné de bien penser? Qui vous a donné de bien réagir? Ô Seigneur, je te loue, je te bénis pour tout ce chemin que j'ai déjà traversé et que ces épreuves ou cette situation qui est devant moi, tu la permettras à ce que je puisse également la franchir. Alléluia! Amen! Alors, nous pouvons, j'invite Yves pour nous accompagner dans un chant. Donc, on va prendre ce chant comme une prière. C'est « Plonge-moi dans ta rivière d'amour », vous le connaissez. Et nous puissions prendre ce chant comme une prière rafraîchissante. Une prière, un chant qui nous désaltère. Comme cette biche qui soupire auprès des courants d'eau. Seigneur, je veux m'approcher de toi. Alléluia.